Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'intersyndicale provinciale de Kinshasa a, dans une conférence organisée ce week-end, insisté sur l'importance pour la femme de connaître et de défendre ses droits, ainsi que sur le rôle de l'autonomisation durable. Face à la persistance de l'insécurité dans la ville, le gouvernement frappe du poing sur la table. Trop, c'est trop. Une riposte sécuritaire renforcée est annoncée avec de nouvelles mesures pour traquer les criminels et restaurer l'ordre public dans la ville de Kinshasa. Forêt et économie, c'est le thème de la Journée internationale des forêts, célébrée ce samedi 21 mars. À cette occasion, l'organisation Les écologistes et RDC plaide pour une reconnaissance concrète des efforts fournis par les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection de nos forêts. Pour en parler, nous recevons Prince Kiangi, le coordonnateur de cette organisation. Encore une fois, bonjour à tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'intersyndicale provinciale de Kinshasa a organisé une conférence au lycée Mama Diankeba dans la commune de Limete, placée sous le thème « Droit, justice, action » au niveau international et « Droit garanti, autonomisation durable » au niveau national. L'activité a réuni une centaine de femmes enseignantes autour des questions liées à leurs droits, à leur autonomisation et à l'égalité en milieu scolaire. Nancia Tambo, reportage.
Prenons la parole, Madame Gina Fataki, point focal de l'intersyndicale provinciale de Kinshasa, a expliqué le sens de l'activité, insistant sur l'importance pour la femme de connaître et de défendre ses droits, ainsi que sur le rôle de l'autonomisation durable.
Cette activité consiste à évaluer les points positifs, les acquis que nous avons déjà gagnés, et voir les défis à relever.
De son côté, la représentante du ministère de l'Enseignement, Madame Wivin Moudé, a parlé du soutien apporté aux femmes enseignantes, ainsi que le mécanisme de suivi mis en place pour garantir le respect de leurs droits.
Priorité pour la femme. Quand on voit tout ce qui se passe, je me limite au thème prévu pour moi de la femme. Je ne retiens que le terme le plus sensible, l'autonomisation de la femme.
Les enseignantes présentes à cette activité ont salué l'initiative avant de partager les difficultés qu'elles rencontrent dans leur exercice de métier.
J'ai aimé cette activité. C'est très bien déroulé. Nous avons appris beaucoup de choses que nous sommes négligés, surtout nos chefs d'établissement.
La rencontre s'est clôturée par une séance de questions-réponses avec une participation active, une mobilisation en faveur des droits de femmes et d'une école plus équitable.
Le droit international humanitaire, ses principes, ses domaines d'application ainsi que la notion de sécurité alimentaire, ces thématiques sont au cœur d'un atelier de 3 jours organisé au profit des personnes vivant avec handicap de la ville et du territoire de Beni. Initiée par Appel de Genève, cette formation vise à renforcer leurs capacités sur les normes et principes humanitaires applicables en période de conflit. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Ils étaient une cinquantaine de représentants des personnes vivant avec handicap venus de la ville et du territoire de Beni à prendre part à cet atelier. Pendant 3 jours, les participants ont été outillés sur les règles essentielles du droit international humanitaire, notamment la protection des civils, les normes à respecter lors des conflits armés et les mécanismes d'engagement humanitaire. Jires Mouvouti, membre de l'organisation Fraternité chrétienne des malades et handicapés, revient sur l'importance de cet atelier.
L'objectif de l'appel de Genève est renforcer la compréhension opérationnelle des normes d'humanité à période de la crise. Spécifiquement, cet atelier vise à clarifier les responsabilités, maîtriser les piliers et ce qui est analyser les mécanismes d'engagement. Ma recommandation est que cette méthode de l'étude des cas pour rendre cet atelier dynamique et concret. Néanmoins, nous devons mettre en pratique ce que Genève Call utilise comme méthodologie.
Pour rappel, Appel de Genève est une organisation humanitaire internationale qui travaille au renforcement du respect des normes et principes humanitaires par les groupes armés et les autorités. C'est donc le but d'améliorer la protection des populations civiles en contexte de conflits. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Quel est le rôle et l'importance du dialogue civil et étatique dans l'espace civique pour la promotion de valeurs démocratiques? Thème au centre des discussions dans un forum organisé à Mbujimayi vendredi par RATEPROCA, réseau des radios associatives et télévision de proximité au Kasaï oriental. Esther Ndalafina pour les détails.
Au cours de ce forum, Charles Kamanga, ministre provincial du plan, a indiqué que le dialogue renforce le contrat social, la légitimité et la confiance mutuelle. Les étudiants et autres acteurs de la société civile présents à ce forum ont apprécié l'organisation de ces assises. Explication de Bénédicte Tendeshi de IFES Leadership Club.
J'entendais parler de la société civile, mais je ne savais pas vraiment sa vocation. Il a fait voir que la société civile est comme un pont entre la population et l'État. La société civile doit aussi accompagner les actions de développement posées par l'État.
Pour Myriam Mukundi du Conseil urbain de la jeunesse, ce forum lui a permis de mieux connaître le rôle de la société civile.
On nous a parlé sur la société civile, les rôles que la société civile a, le devoir et les obligations, les défis auxquels il fait face.
Nadège Kankolongo a retenu l'aspect collaboration entre la société civile et le gouvernement.
Nous devons être là, nous devons nous unir tous ensemble, travailler afin d'apporter cette innovation-là, ces changements-là.
Signalons que les participants demandent aux organisateurs de multiplier ce genre d'activités. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Face à la recrudescence des actes criminels dans la capitale, le gouvernement durcit les tons. Le vice-premier ministre en charge de la sécurité a présenté les nouvelles orientations issues d'une réunion interne réunissant les services de sécurité. Une riposte sécuritaire renforcée est annoncée avec de nouvelles mesures pour traquer les criminels et restaurer l'ordre public. Ainsi, plusieurs décisions fortes ont été prises pour lutter contre l'insécurité à Kinshasa. Le point avec Christian Makasinga.
Parmi les mesures phares figure l'intensification des interpellations des auteurs de faux enlèvements, un phénomène en pleine expansion. Les services spécialisés de la police nationale sont désormais mobilisés pour traquer ces réseaux. Autre décision majeure, la poursuite de l'opération Dobo avec les déploiements de patrouilles mixtes composées des policiers et des militaires, de jour comme des nuits. Objectif, éradiquer le phénomène des Koulouna, ces gangs urbains responsables de nombreux actes de violence. Le gouvernement annonce également la tenue prochaine d'une réunion interinstitutionnelle pour traiter spécifiquement des braquages et des cambriolages attribués à certains hommes en uniforme, une question sensible qui préoccupe l'opinion publique. Enfin, une concertation est prévue avec les acteurs du secteur des télécommunications afin de renforcer les contrôles des cartes SIM. Parmi les pistes envisagées figure l'interdiction de la vente des cartes préenregistrées et la réidentification des abonnés afin de limiter leur utilisation à des fins criminelles. Autant de mesures qui traduisent la volonté des autorités de reprendre le contrôle de la situation sécuritaire dans la capitale congolaise.
Dans le même ordre d'idées, les autorités provinciales de Kinshasa passent à la vitesse supérieure dans le but de réorganiser les secteurs des transports dans la capitale congolaise. C'est jeudi 19 mars, les ministres provinciaux des transports et de l'intérieur ont lancé, avec des associations de motocyclistes Wewa, le processus d'identification et de numérotation des motos, une mesure qui vise à renforcer la sécurité et à lutter contre l'anarchie en dépit des tensions sociales persistantes. Le point avec Elache Mbalukomba.
Au centre des discussions, la mise en place prochaine des systèmes d'identification et de numérotation des motos. Les autorités provinciales affirment que cette mesure vise à mieux organiser la circulation, renforcer la sécurité et mettre fin aux pratiques jugées anarchiques. Elles ont aussi demandé aux responsables des associations de sensibiliser leurs membres afin d'obtenir une large adhésion à cette réforme. Le ministre provincial des Transports, Jésus Nawalche, qui a par ailleurs insisté sur la collaboration avec les agents chargés de la perception de la taxe des stationnements sur le terrain. De son côté, le ministre provincial de Jeannot Canon a rappelé la nécessité d'une coordination étroite entre les communes, les services techniques et les associations pour garantir le succès de cette opération. Rappelons que ces processus d'identification et de numérotation des motos viennent d'être lancés alors que la ville de Kinshasa a été paralysée le 16 mars dernier par une grève des chauffeurs des taxis et taxibus privés dénonçant des tracasseries routières.
Restons dans la capitale, la Direction générale des impôts a réceptionné le 17 mars 2026 un important lot de nouvelles plaques d'immatriculation accompagnées de la carte rose. Plusieurs innovations technologiques sont à signaler, notamment un support en plexiglas ainsi qu'un code QR visant à améliorer la traçabilité des véhicules sur toute l'étendue du territoire national. Autre changement notable, la mention CG est remplacée par le sigle code afin d'éviter toute confusion avec le Congo-Brazzaville. Du côté de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, la réforme est bien accueillie, mais l'on insiste sur le respect du compromis trouvé avec l'autorité urbaine. On écoute à ce sujet Kakule Bienvenu, président de l'ASECO, dans cet extrait choisi par Nancy Tambo.
Il y a le gouverneur qui nous avait déjà fait part de cette formation et nous avions eu à discuter ensemble avec lui autour de cette question où il nous avait rassuré que ces nouveaux lots de plaques seraient distribués à de nouvelles commandes. Donc, on ne va pas imposer aux véhicules qui ont déjà des plaques de matriculation de réacheter encore des plaques de matriculation. Ça, nous avions refusé et il était d'accord avec nous. C'est comme cela que le terrain d'attente qui était trouvé était que celui qui commande nouvellement une plaque, c'est celui-là qui va commencer à intégrer la nouvelle plateforme de toutes les informations numériques de cette nouvelle plaque. Mais quant aux anciennes plaques, en tout cas, ça reste éco-forme jusqu'à l'épurement de leur durée de vie par rapport à l'engin ou au véhicule.
La MONUSCO vient d'apporter un appui logistique au gouvernement provincial du Nord Kivu pour accélérer les travaux d'extension de la piste de l'aéroport de Mavivia Beni. Depuis quelques mois, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé les travaux de modernisation de cet aéroport, seule porte d'entrée et de sortie aérienne dans la province depuis une année à la suite de l'occupation de la ville de Goma par l'AFC M23. La mission onusienne vient notamment de mettre à disposition 8 camions et des engins lourds afin de permettre l'avancement rapide du chantier avant l'arrivée de la grande saison des pluies qui risque de ralentir les travaux. Suivez les explications d'Abdourahman Ganda, chef de bureau de la MONUSCO Beni, au micro de Marcel Papimoukeba.
Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni consiste en une extension de la piste pour aller jusqu'à 3300 mètres et puis à la construction d'un nouvel aérogare. Le gouverneur nous a sollicité pour les accompagner dans ce projet. Il nous a demandé de mettre à leur disposition 3 camions par jour avec des chauffeurs et du carburant. Nous en avons mobilisé 8. Nous avons ajouté 2 pelleteuses et puis 2 chargeurs. L'objectif, c'est de pouvoir faire avancer les travaux au maximum, le plus tôt possible avant que la grande saison de pluie ne s'installe et qu'elle empêche l'évolution du chantier. C'est une manière pour nous de contribuer à cette œuvre de développement de la zone. Vous savez que le développement et la paix, qui est notre mandat, sont indissociables. Le gouverneur a demandé 3 mois, c'est ce que nous allons faire. Les travaux consistent au terrassement, ensuite dégager toute la latérite qui a été sortie du chantier et au nivellement. Quand le moment de mettre le tarmac sera arrivé, on va réviser, voir notre contribution.
Nations Unies toujours, l'UNICEF appuie un groupe de jeunes réunis au sein du club de paix pour lutter contre les antivaleurs, notamment la délinquance juvénile, dans la ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Joint ce dimanche par Radio Kapi, le président de cette structure explique que leur mission consiste notamment à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, non seulement entre les jeunes, mais également entre les différentes communautés de Kalemie. Il précise également que ce projet bénéficie d'un appui financier de l'UNICEF apporté via la division provinciale de la jeunesse du Tanganyika. Norbert Kayembe, au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Le club de paix de Kalemie consiste à promouvoir la paix, la cohésion sociale dans notre communauté. Le club de paix est composé de plusieurs couches de jeunes, notamment des jeunes de différentes églises et certains responsables des groupes de jeunes qui sont dans notre commune. Dans notre club, nous recherchons la cohésion sociale et le bien vivre ensemble entre les jeunes en conflit, entre les communautés en conflit, et aussi promouvoir la paix respecter les droits de l'homme. L'UNICEF appuie surtout la division de la jeunesse qui à son tour nous forme les jeunes du club. Et nous là en tant que jeunes, avec l'appui de la division, nous avons eu à recevoir un appui financier auprès de la division de la jeunesse. Cet appui nous a aidé à créer une activité génératrice de revenus, notamment la fabrication du savon Amani. Et ça nous permet de mener nos activités dans notre milieu et aussi dans les villages un peu situés à quelques kilomètres de notre commune.
Avec les fonds de l'UNICEF, ces jeunes affirment également mener des activités génératrices de revenus, notamment la fabrication de savons vendus à Kalemie et dans les villages environnants.
Actualité internationale.
Le Gabon a lancé le rapatriement de ses citoyens bloqués dans le Moyen-Orient à cause de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Dimanche 22 mars, une première vague de 36 personnes est arrivée à Libreville par un vol régulier de la compagnie Ethiopian Airlines. Un comité d'accueil présidé par le ministre des Affaires étrangères les attendait à l'aéroport.
L'invité.
Forêt et économie, c'est le thème de la Journée internationale des forêts célébrée ce samedi 21 mars. À cette occasion, l'organisation Les écologistes et RDC plaide pour une reconnaissance concrète des efforts fournis par les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection de nos forêts. C'est à travers une correspondance adressée à la ministre de l'Environnement. C'est pour parler de ces plaidoyers que nous recevons Prince Kihangi, coordonnateur de l'organisation Les écologistes et RDC. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Prince Kihangi, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui justifie cette demande que vous venez d'adresser au ministre de l'Environnement?
En effet, comme nous allons globalement parler des forêts, nous sommes dans l'obligation de parler des personnes qui conservent et qui protègent les forêts. Voilà pourquoi je me suis adressé à son Excellence Madame le ministre de l'Environnement pour dire que, à cette occasion, il faudra ce que nous puissions exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Parce que si aujourd'hui la RDC est reconnue comme pays solution en matière de lutte contre le changement climatique, c'est évidemment parce que nous avons des grandes forêts, des forêts primaires. Et ce qui garde ces forêts, ce sont les communautés locales et le peuple autochtone. Ce n'est pas dans nos bureaux climatisés où nous conservons les forêts, mais les forêts sont conservées et gardées par des communautés locales et de peuples autochtones pygmées. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une journée internationale, en tout cas, j'estime que c'est une journée dédiée aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Voilà pourquoi je me suis adressé à madame, pour que ces communautés se retrouvent dans la célébration de cette activité, qu'on ne se limite pas dans des bureaux dans la célébration, sur des chaînes de télévision, mais que ces communautés, ces peuples autochtones, jouissent des retombées de la conservation des forêts.
Qu'est-ce qui devrait être fait concrètement selon vous?
Il y a de l'argent qui est donné aux États qui conservent des forêts pour que ça soit une contrepartie de la conservation. Aujourd'hui, si nous parlons des forêts comme journée internationale, nous voulons que le gouvernement sache qu'il y a des personnes qui travaillent, qui conservent et qui protègent. Et que ces personnes-là, nous devons investir dans leur développement. Que ces communautés trouvent des alternatives à la forêt, parce que ces communautés se privent de tout avantage issu des forêts parce que nous conservons afin que le monde respire. Alors, ces personnes qui nous donnent de l'air frais, mais pourquoi à l'occasion de la célébration, nous n'avons pas d'attention particulière sur eux? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire quelque chose. D'abord, un message qui exprime nos sentiments de satisfaction et de reconnaissance à toutes ces populations, mais également développer des projets intégrateurs, des projets de développement dans les milliers de vies de ces communautés-là. Qu'elles sachent que c'est parce que nous conservons, c'est parce que nous protégeons les forêts que nous avons tel projet au sein de la communauté. Et ça motive les membres de la communauté à conserver davantage et à protéger les forêts.
Mais avant cette reconnaissance que vous demandez de la part du gouvernement, ces populations, à la base, qu'est-ce qu'elles tirent comme avantage de la protection de la forêt?
Tout naturellement. Quand les communautés protègent et conservent les forêts, ces communautés savent que la vie de l'homme est liée à l'existence des forêts. C'est des forêts que nous trouvons des bois pour nous construire des maisons. Si nous pouvons trouver à manger, les chenilles, les champignons, tout ça c'est dans la forêt. Mais aussi, il faut retenir que c'est dans la forêt qu'il y a des activités d'exploitation minière. Que donc, même si les communautés s'organisent à ne pas détruire la forêt, mais nous reconnaissons que même la richesse du sous-sol se trouve être dans la forêt. Mais également, par exemple, sur le plan culturel, on est coutumier. On sait que toutes les cérémonies coutumières, traditionnelles, s'organise dans la forêt. C'est à partir de la forêt que nous parlons à des aïeux. Aussi, il faut retenir que sur le plan sanitaire et médicinal, tout est tiré de la forêt.
Et quels sont les défis de la conservation des forêts dans l'est de la RDC?
Il y a des défis énormes. D'abord, il faut reconnaître que la plupart de ces communautés locales sont pauvres. Cette pauvreté pousse certains membres des communautés à envahir la forêt. Parce que je vois des gens qui s'adonnent à la coupe abusive des arbres, parce que évidemment, il n'y a pas de projet alternatif. Lorsqu'il n'y a pas du courant, c'est pourquoi on félicite même Virunga SARL, lorsqu'on produit du courant en faveur de ces communautés-là, et là, on réduit les menaces des communautés sur la forêt. Alors, là où il n'y a pas de projet alternatif comme celui-là, c'est-à-dire que les communautés vont s'attaquer à la forêt. Mais l'autre défi, par exemple dans la région ici, c'est l'aspect sécuritaire. La situation sécuritaire qui date depuis plus de 20 ans, parce que ces hommes qui sont en brousse, personne n'a le contrôle sur eux. Que donc, leur moyen de survie, c'est la forêt. Et que donc, tant qu'on n'aura pas la paix dans nos villages, en tout cas, la forêt sera toujours exposée.
Monsieur Prince Kihangi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation Les Écologistes RDC. Merci.
Bien, merci.
C'était notre invité Prince Kihangi, coordonnateur de l'organisation Les Écologistes RDC, qui parlait de la journée mondiale de la forêt dans un entretien avec Rosalie Zawadi. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal préparée par Jude Mister Bilan Dankoumar et mise en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.